Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 17 décembre. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Nous n'avons pas assez écouté les Français, le mea culpa d'Edouard Philippe dans le journal Les Échos. Le Premier ministre apporte aussi des précisions sur ceux qui toucheront 100 euros de plus par mois. Le mouvement des Gilets jaunes semble s'effilocher, mais certains résistent et ne comptent pas quitter les ronds-points. Nous serons dans le Var dans ce journal. Et puis elles sont à la une de quasiment tous vos journaux. Ce matin, les handballeuses françaises championnes d'Europe. Elles ont battu les Russes hier soir en finale à Paris.
Europe 1.
Dans un entretien au journal Les Échos, le Premier ministre apporte des précisions sur les annonces faites par Emmanuel Macron la semaine dernière pour répondre aux demandes des Gilets jaunes. Au lendemain du cinquième samedi de mobilisation, Édouard Philippe précise donc que la hausse de 100 euros promise par les salariés payés au SMIC ne concernera finalement pas tous les SMICards, Olivier Samin.
Et non, à la moitié seulement, car le choix finalement retenu par le gouvernement, c'est de passer par la prime d'activité que versent les caisses d'allocation familiale aux travailleurs modestes. Or, cette prime d'activité, elle est attribuée non pas en fonction de votre seul salaire, mais en fonction des revenus de votre foyer. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, vous avez beau être payé au SMIC, vous n'aurez pas droit à la prime d'activité et donc vous n'aurez pas droit aux 100 euros de plus par mois. Alors, qui les touchera ces 100 euros? Trois exemples. Le célibataire sans enfant qui gagne le SMIC, lui, c'est sûr. Et même celui qui gagne un peu plus que le SMIC, jusqu'à 1560 euros net par mois. La personne qui élève seul un enfant et dont les revenus vont jusqu'à 2000 euros net par mois, elle aussi touchera les 100 euros supplémentaires. Le couple avec deux enfants qui gagne jusqu'à 3000 euros, là, si les deux membres du couple travaillent, chacun touchera 100 euros de plus par mois. Ce sont des exemples. Édouard Philippe affirme qu'au total, 1 200 000 foyers supplémentaires vont devenir éligibles à la prime d'activité, ce qui représentera 2,5 milliards d'euros de plus au profit des ménages modestes.
Olivier Samin pour Europe 1. Édouard Philippe qui annonce aussi ce matin dans les colonnes des Échos un débat sur le référendum d'initiative citoyenne, l'une des principales revendications des Gilets jaunes. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet ni dans n'importe quelle condition. Fin de citation.
5 semaines après le début du mouvement, le groupe Vinci a fait le bilan du montant des dégâts commis sur l'ensemble de son réseau.
Les dégâts qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros. Près de 250 sites ont été impactés quotidiennement. Des incendies volontaires ont détruit 6 bâtiments d'exploitation, 33 véhicules d'intervention, mais aussi 15 échangeurs et plateformes de péage, sans parler des nombreuses routes dégradées. Et sur les ronds-points, certains gilets jaunes ont bien l'intention de résister coûte que coûte, malgré l'appel du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le reportage de Jacques Terrance dans le Var.
Jusqu'à Noël, on lâche rien.
Ils sont toujours plusieurs dizaines de gilets jaunes à occuper ces deux ronds-points de Fréjus et Puget-sur-Argent. Même combat, après s'être fait déloger de l'entrée de l'autoroute, ils ont reconstruit deux campements, tout équipés, avec la ferme idée de poursuivre la mobilisation.
On a remonté des tonnelles, on a remonté la cuisine, la guinguette, moi j'en suis fière. Et c'est la première chose qu'on a remis, c'est notre sapin de Noël, pour faire voir qu'on serait là à Noël.
C'est une guerre de position, alors aucun de ces gilets jaunes ne compte céder, malgré l'appel de Christophe Castaner ou d'autres ministres.
Hors de question.
Il nous virera du rond-point, on ira en face. Et quand il nous virera de là-bas, on ira de l'autre côté. Ben on partira pas, monsieur. On est dans la rue, on va y rester.
Et cette colère est entretenue par un lien social désormais très fort.
Avec toutes les heures qu'on passe ici, on a commencé à parler de la politique, de la démocratie, de comment nous-mêmes on pourrait gouverner notre pays. Moi, dès les premiers jours de manifestation, je pensais que le gouvernement avait fait une très très grosse erreur. On vivait il y a un mois et demi dans un monde où on avait peur d'aller demander du sel à son voisin. Et aujourd'hui, les Français sont plus unis que jamais.
Il y a quelques jours de Noël, il reste surtout les gilets jaunes les plus radicaux sur ces deux ronds-points. Fréjus, Jacques Terrance, Europe.
Et notez qu'une cinquantaine de personnes interpellées samedi à Paris lors de l'acte 5 ont été présentées à la justice. 9 étaient toujours en garde à vue hier soir.
Europe 1, il est 6h03.
Le bilan de l'attentat de Strasbourg s'est alourdi hier
soir. Une cinquième victime a succombé à ses blessures. Une dizaine de personnes ont par ailleurs été blessées. Certaines sont toujours dans un état grave. Strasbourg qui a rendu un hommage aux victimes de l'attentat perpétré par Chérif Chekat au pied de l'immense sapin qui trône dans le marché de Noël. Frédéric Michel.
Résistons pour continuer à vivre unis, c'est le message des Strasbourgeois. Oulia était dans la foule des anonymes venus rendre hommage aux victimes.
Après un événement qui a touché notre ville, qui a touché notre humanité, je pense que c'est important, oui, d'avoir un moment de recueillement, d'apaisement aussi, de fraternité, d'amour, parce que c'est pas la haine qui nous rassemble, au contraire, c'est le vivre ensemble et je pense qu'on en a besoin.
Vendredi, le marché de Noël a rouvert et il y a eu du monde, énormément de monde tout le week-end. Benoît est venu de Belgique avec sa femme et son fils.
On est venu spécialement pour le marché de Noël. On avait une petite crainte à ne pas vouloir venir par rapport à ce qui s'est passé. Mais il faut venir parce que bon, sinon alors c'est le non-engagement, c'est un moment de partage.
Pierre Bardet préside l'association des commerçants strasbourgeois.
On est debout, on est meurtri, on est blessé, mais on doit être debout et on le voit tout le monde qui vient dans les magasins. Parce, même s'ils n'ont pas besoin de produits, ils viennent quand même.
Les gens ont besoin d'être ensemble.
Ensemble, se parler, même du regard, même du toucher, c'est quelque chose de... On ne peut pas le décrire de très très spécial.
Et il faudra aussi du temps aux strasbourgeois pour apaiser le traumatisme. Une cellule médico-psychologique est active depuis le soir de l'attentat. Strasbourg, Frédéric Michel, Europe 1.
Une nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, est cette fois poursuivi pour des violences, toujours le 1er mai, des violences commises au Jardin des Plantes. Il a été mis en examen il y a 3 semaines.
Quel est le meilleur jour pour voyager en avion? Une étude qui a compilé 1 million de vols nous donne le résultat ce matin sur Europe.
Oui, Liligo et Air Indemnité ont mené cette enquête inédite qui nous révèle quand il faut prendre ses billets et quand il faut partir. La réponse tant attendue avec Aurélien Fleureau.
Inutile de faire durer le suspense, pour trouver les billets les moins chers, il faut se connecter le jeudi matin le plus tôt possible. C'est le constat fait par Guillaume Rostand, directeur général du moteur de recherche Liligo, avec des écarts parfois vertigineux, 65% de différence pour un vol Paris-Lisbonne selon que vous fassiez votre recherche un jeudi ou un samedi.
Les prix augmentent progressivement du vendredi, samedi, dimanche jusqu'au mardi et commencent à baisser mercredi. Et donc le jeudi est statistiquement le jour auquel les prix se rafraîchissent. Forcément, il y a derrière toujours cette idée de l'offre et de la demande.
Mais le prix du vol n'est pas le seul critère, quitte à voyager, autant éviter les perturbations. Et là, l'idéal, c'est de partir un mercredi et surtout d'éviter le mardi, explique Anne-Laure Herry d'Air Indemnité.
Si vous avez réservé un hôtel, une location de voiture, etc., et que vous ratez votre vol, ça peut vous coûter effectivement de l'argent. Donc le mieux, c'est de privilégier les départs plutôt tôt le matin. Un petit retard le matin peut être un très gros retard, voire une annulation en fin de journée. Évitez absolument le mardi.
Autre conclusion de cette enquête, pour un week-end de 3 jours, la solution départ tôt le samedi matin et retour lundi avant 15h est celle qui garantit les meilleurs prix.
Aurélien Fleureau, bon, vous n'avez rien appris puisque vous le saviez déjà.
Effectivement, et j'aurais voulu que l'info reste entre nous. Moi, je trouve dommage qu'Europe 1 ait livré l'info comme ça au grand public. Maintenant, tout le monde le sait, les amis. Alors, je vous adore, chers auditeurs. Mais maintenant, chacun sait qu'il faut réserver ses billets d'avion le jeudi matin. On est foutus. C'était le journal de Céline Kallmann. Céline qui a longtemps hésité, d'ailleurs, entre deux métiers, journaliste ou femme sandwich. Une fibre commerciale qui s'exprime encore dans son journal de 7h30 où, moyennant une prime rondelette, elle accepte parfois de s'asseoir sur sa carte de presse pour faire des pubs avec Nikos.
Casse-Noisette, c'est donc à la scène musicale jusqu'au 4 novembre. C'est en partenariat avec Europe 1.
Ah, je voudrais bien écouter Casse-Noisette, là. Vous m'avez donné envie.
Oh, magie du publi-reportage. Discret.
Europe 1. Les 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, cet historique, le fact-checking par l'histoire aujourd'hui après le succès ce week-end des handballeuses françaises, sacrée championne d'Europe hier. Fabrice Dalméda reviendra sur les origines de ce sport d'emblée lié aux femmes.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce lundi avec vous, Céline Dacosta. Le soleil revient sur la plupart des régions cet après-midi.
Oui, ce matin, c'est encore un peu perturbé sur l'est avec des averses, de la neige sur les reliefs, des pluies, voire des orages encore pour la Corse et puis quelques gouttes aussi dans le sud-ouest. Ailleurs, ce sera déjà assez ensoleillé après dissipation de nuages bas ce matin. Puis cet après-midi, le soleil revient quasiment partout. Il restera encore quelques gouttes près de l'Atlantique, un petit peu plus de nuages avec encore de faibles averses sur l'est. Grand soleil près de la Méditerranée par contre avec du vent, Mistral et Tramontane qui vont bien souffler toute la journée. Du vent, on en aura également en Corse et sur la Bretagne. Les températures sont plus douces, elles vont rester toute la semaine d'ailleurs. Elles vont même grimper en fin de semaine puisque dimanche on aura une moyenne de 13 degrés sur la moitié nord, 16 pour la moitié sud. On se dirige vers un Noël très très doux côté thermomètre.
C'est très satisfaisant, je vous mets à plus pour cette météo.
Merci
qualitative.
Bien.
Eva Rock.
Alors vous le verrez sans doute dans la presse ce matin, il y a beaucoup question des jouets à la mode pour ce Noël 2018. Alors on a demandé aux auditeurs quel jouet a marqué leur enfance. Et bien sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, on a eu de très belles histoires, comme celle de Nériel. Lui, c'est le Noël de sa maman, en 1945, dont il voulait nous faire partager. Elle avait 7 ans, son papa était prisonnier en Allemagne et durant 6 ans. Et puis il est passé chez un ami boulanger avant de revenir et le boulanger a glissé dans son blouson des brioches toutes chaudes et odorantes. Ça a été le plus beau Noël de sa maman, qui a priori, elle lui a raconté et il s'en souvient encore. Et puis on a eu un message de Taco. Alors elle, c'était une trop trottinette rouge dont elle rêvait toute l'année. Elle en a rêvé. Elle avait 6 ans à l'époque. Elle a finalement eu sa trottinette que le père Fouettard est venu reprendre 36 heures après parce qu'elle n'était pas sage. Je l'ai connue 3 jours, mais je me souviens d'elle comme c'était hier. Et elle nous dit que c'est un peu l'histoire mythique dans la famille parce que ça, c'est une menace pour tous les enfants chaque année avec cette histoire de père Fouettard. Voilà. Merci pour tous vos messages.
Merci, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure d'ouvrir le journal des sports, j'aimerais justement, chers auditeurs, attirer votre attention sur un livre qui ravira vos proches sous le sapin à Noël. Vous êtes nostalgique de l'Almanach Vermo ? Découvrez l'Almanach GG. Une compilation des lancements les plus hilarants de Jérôme Lacroix dans son journal des sports. Jeux de mots, galéjades et même en bonus, ce genre hélas boudé par les humoristes modernes, contrepétri.
Lucas Pouille, le joueur de tennis français, s'est exprimé. Lucas Pouille raconte les raisons du choix dans la date.
L'Almanach GG, l'assurance d'un Noël de qualité. Et tout de suite,
bien sûr,
on passe.
La vulgarité n'a pas été dite en vrai à l'antenne.
Évidemment, on passe au journal des sports. À la ligne ce matin, une seule phrase, GG, championne d'Europe.
Plus de 14 000 spectateurs hier soir à Paris-Bercy pour fêter les Bleus du handball. Là, on est au moment où elles lèvent leur trophée au sommet du continent. Premier titre européen décroché à l'issue d'une finale étouffante, un 24-21 face aux Russes. Ces mêmes Russes qui, il y a 4 ans, avaient battu les Françaises en finale des JO. Revanche, une revanche fêtée. Ambiance dans le vestiaire après le match avec Grace Zahadi à l'animation, puis ambiance aussi dans la zone d'interview. Certaines joueuses qui sont en train d'en taquiner d'autres pendant qu'elles répondent à la presse. Bonne ambiance, bon esprit. Donc écoutez, Manon Houette, 26 ans, pour elle, ce titre, c'était écrit.
Les gens, en fait, de l'extérieur, là, me disent mais c'était fou, c'était incroyable. Et moi aussi, en le vivant, j'avais l'impression qu'on était en train de marquer l'histoire, quoi. L'engouement des gens, il s'est passé quelque chose et je suis tellement fière des valeurs qu'on dégage de cette équipe. Franchement, c'est vraiment une bande de meufs incroyable. J'ai beaucoup de chance.
Championne d'Europe, un an après, donc l'obtention du titre de championne du monde. Hier après-midi, les Françaises ont définitivement pris le dessus en seconde période. Elles étaient en colère après l'expulsion sur carton rouge qu'elles jugeaient injuste de l'une des bleues les plus capées, Alison Pinault.
Et succès doublement important, Jérôme, puisque les Françaises sont qualifiées d'office pour les prochains JO.
Et voilà, elles verront Tokyo 2020 auréolées donc de 2 titres, mondiaux et continentaux. L'or olympique, après l'argent il y a 4 ans, c'est maintenant l'objectif majeur. Hein. Et déjà, en étant qualifié dès maintenant, la préparation démarre, on ne peut mieux. Le sélectionneur Olivier Krombol s'en réjouit.
Ben pour moi, c'était le plus important, parce qu'on se qualifie en premier par rapport à tout le monde, on va pouvoir gérer, enlever un ou deux stages cet été, un stage pour que les filles et notamment les anciennes puissent récupérer.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre. Christophe qui nous signale d'ailleurs que les Bleus devraient être reçus très prochainement à l'Elysée. Et côté prime, 40 000 euros pour la victoire. C'est autant que les garçons. Et oui, c'est comme ça dans le handball depuis de nombreuses années.
Le foot, Jérôme, et Lyon et le PSG fixés aujourd'hui sur leur avenir européen.
À partir de midi, tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce pourrait être notamment l'Atlético de Madrid pour le PSG. Du côté de Lyon, ce pourrait être notamment aussi le Barça, le Real ou la Juventus Turin. Tirage aussi pour Rennes, hein, 16e de finale de la Ligue Europa. Hier soir, les Lyonnais jouaient en Ligue 1. Succès 3-0 contre Monaco. Les Lyonnais 3e ce matin, les Monégasques avant-dernier. Un mot de rugby avec hier la victoire des Montpelliérains 34-13 sur les Toulonnais. C'était en Coupe d'Europe. Les Héraultais se relancent dans ce premier tour. Les Varois sont quasiment éliminés.
On termine, Jérôme, par l'histoire du jour.
On reste dans le rugby. On a appris tard hier soir qu'une réunion allait bien se tenir entre la Fédération française et World Rugby, l'instance qui gère le rugby mondial. Ce sera jeudi à Paris. Réunion exceptionnelle sur la sécurité des joueurs. C'est après le tragique décès la semaine dernière de Nicolas Chauvin, 19 ans à peine, après un violent plaquage en plein match.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, que je félicite pour sa très jolie performance ce week-end, puisqu'il a terminé 3e du concours de karaoké intercommunal d'ici les Moulineaux, avec sa fameuse reprise des Chaussettes Noires. La vie n'est qu'un jeu pour lui. Ce matin, dans sa rubrique 7 historique, Fabrice d'Almeida, l'érudit de la bande, revient sur le succès européen, justement, des handballeuses françaises. Le handball, un sport par les femmes, pour les femmes, et ce, dès sa création.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Hier, l'équipe de France féminine de handball a donc remporté les championnats d'Europe. Mais dites-moi Fabrice, ce sport, le handball, les femmes le pratiquent depuis longtemps ?
Ben elles en sont même à l'origine. C'était en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Un professeur de gymnastique berlinois, Max Heiser, cherche un moyen d'occuper ses élèves, des adolescentes. Inspiré par le hockey et le foot, un jour d'hiver, il leur propose de composer deux équipes pour marquer des buts dans un cadre de 2,50 m de large sur 2 m de haut. Les filles ne doivent pas garder la balle à la main plus de 3 secondes avant de la passer. On utilise un ballon de foot ou un medicine ball et bientôt, une zone de tir à 4 mètres est tracée au sol. Après des parties dans le gymnase, au printemps, on joue dans la rue du lycée, habillé en blouse avec un pantalon bouffant et une paire de chaussettes montant aux genoux. Heiser, lui, porte costume cravate et moustache. Il décide d'appeler son jeu le torball, c'est-à-dire la balle au but.
Et d'autres personnes s'y sont mises.
Bah oui, des médecins du travail ont consulté Heiser et l'ont poussé à proposer son jeu aux ouvrières des usines Siemens pour corriger les mauvaises positions du travail à la chaîne. Et c'est un succès. Le 29 octobre 1917, il décide de rédiger les règles officielles et appelle son jeu le handball et organise le premier tournoi. La notoriété du jeu est telle qu'un autre enseignant, Karl Schellens, le prend pour les garçons de son lycée, remplace la règle des 3 secondes par la règle des 3 pas et crée une balle plus petite. Schellens dit que c'est un jeu de combat car on est encore en guerre, mais c'est le sport actuel.
Et ce sport, il est arrivé quand en France ?
Ça a commencé dans l'entre-deux-guerres, mais c'est surtout le régime de Vichy qui le développe et le fait entrer dans les écoles pour se concilier les bonnes grâces des occupants allemands en 1941. Le handball féminin prend son essor plus tard en France, dans les années 60, et il devient international seulement dans les années 70. En somme, l'équipe féminine, en remportant la Coupe d'Europe hier, a écrit une page nouvelle dans l'histoire d'un sport qui doit déjà beaucoup aux femmes.
Et on comprend en vous écoutant pourquoi on dit le handball et non pas le handball.
Exactement.
Puisque ce n'est en Allemagne. Merci beaucoup Fabrice Almeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, d'éclairage et de proximité complice. Vous le savez, chers auditeurs, ici on a pris l'habitude de tout se dire. Et parfois peut-être c'est vrai, trop se dire.
Je vais dans le Loir-et-Cher. Je vous vends du rêve.
À suivre à 6h20, pourquoi les grandes écoles comptent-elles autant de jeunes parisiens et si peu de Clermontois, de Bernay ou de Lorrain? Dans un instant, nous serons en direct avec Bichente Echesa-Areta et Florent Aguiar qui ont lancé une association pour promouvoir l'égalité territoriale dans l'accès aux grandes écoles.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 17 décembre 2018. Et ce matin, alors que le débat ouvert par les Gilets jaunes interpelle les pouvoirs publics sur le fossé qui persiste encore entre les grandes villes et la province, on va parler justement égalité des chances entre les territoires. Bichente Echesa-Areta, Florent Aguiar, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez lancé une association pour promouvoir l'égalité territoriale dans l'accès aux grandes écoles. Et c'est vrai, pour avoir fait moi-même ce qu'on appelle une grande école, Sciences Po, j'ai pu constater sur les bancs de l'amphiboutmi, il y avait une super mixité sociale, territoriale, puisqu'il y avait les riches du 5e arrondissement, les riches du 7e arrondissement, quelques-uns aussi du 17e arrondissement. Peu de Bernay, en revanche, c'est vrai. Je caricature évidemment, mais c'est quand même de ce constat de déséquilibre que vous êtes parti pour créer votre association.
Absolument. Et c'est une problématique dont on parle très peu.
Oui.
Mais les lycéens des territoires connaissent un retard dans l'accès à l'enseignement supérieur et notamment aux filières les plus sélectives, classes préparatoires, grandes écoles. Et ce retard, il s'explique par, disons, trois biais. Le premier, ce sont des difficultés d'accès à l'information, parce que lorsque vous êtes sur ces territoires où souvent les écoles ne sont pas implantées, eh bien vous ne les connaissez
vous
pas.
Vous n'avez pas l'idée, tout simplement.
Oui. Absolument. Mais il y a aussi une autocensure qui touche particulièrement les lycéens de ces territoires qui ne se sentent pas
légitimes, ouais.
Absolument. Mmh. Alors qu'ils ont d'excellents résultats au baccalauréat. Donc ils jugent ces cursus élitistes ou hors de portée.
C'est peut-être ce qui... Je vais vous poser la question à vous directement. J'aimerais juste dire mon exemple personnel, même si ça me concerne, mais ça illustre ce que vous dites. C'est que moi, par exemple, j'étais en province, j'étais dans l'Ain, dans le département de l'Ain, et moi, j'avais des bons résultats, et on m'a dit, il faut faire Sciences Po Grenoble. Il faut faire Sciences Po, mais pas Paris.
Ah oui, on vous a pas parlé
à Paris,
tu n'auras
aucune chance.
Ah oui.
Et c'est juste qu'on ne nous pousse pas aussi en province à aller faire les plus grandes écoles. Peut-être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être ce qui vous est arrivé.
Tout à fait. En fait, c'est fait écho à ce que disait Bichente, c'est qu'il y a quelque part une autocensure et il y a besoin de travailler cet accès à l'information quelque part, qui est un vrai fléau finalement. En tout cas, l'accès à l'information sur les filières qui sont possibles après le bac, c'est ça qui va constituer la première source d'inégalité aujourd'hui dans les études supérieures en France. Et les lycéens des territoires périphériques, qui sont donc éloignés des métropoles, vont pâtir finalement d'un manque d'accès à cette information. Et on peut agir tout simplement au niveau local pour lutter contre cette autocensure.
Alors vous, oui. Votre association, qu'est-ce que vous faites concrètement pour donner ce coup de pouce nécessaire ?
Alors, ce que nous faisons, alors nous fédérons les étudiants et les jeunes diplômés de ces filières-là pour aller intervenir dans les lycées de nos territoires.
Pour les inciter, en fait, c'est ça ?
Exactement. Témoigner tout simplement de nos parcours et montrer à travers des témoignages incarnés qu'ils sont tout à fait possibles. Et donc, c'est ce que nous faisons. Alors, nous avons débuté au Pays Basque en 2013. Et chaque année, nous intervenons dans 10 lycées, publics et privés. Et puis aujourd'hui, nous commençons à faire des émules partout en France.
Dans toutes les régions de France, ils se sentent concernés, ils font appel à vos services, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, l'année dernière, nous avons été auditionnés par le Conseil économique et social et on s'est rendu compte que cette problématique, en fait, a touché l'ensemble des territoires ruraux en France. C'est pour ça qu'on a créé une coordination des territoires aux grandes écoles qui aujourd'hui est en plein développement et accompagne désormais 14 répliques de l'initiative partout en France. L'idée, elle est très simple, c'est que la coordination rend accessible à tous l'ensemble des outils développés au Pays Basque, des modèles de convention ou le modèle de site internet, par exemple.
Ça facilite tout ça. Si je me faisais l'avocat du diable, je dirais que vous organisez aussi, quelque part, la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que si les éléments les plus brillants du Pays Basque vont tous à Paris faire des grandes écoles, il y aura moins de gens dans le Pays Basque, sauf s'ils reviennent travailler après là-bas.
Alors, vous soulignez un point capital. Effectivement, si on agit uniquement pour l'égalité des chances, on accélère les départs vers les grandes métropoles. Et c'est pour cela qu'il y a un deuxième aspect à notre initiative, qui est de resserrer les liens entre la communauté des étudiants et des jeunes diplômés, voilà, qui ont fait de belles expériences, qui ont de belles formations, etc., avec le tissu économique local, pour que cette jeunesse-là ne soit pas perdue pour nos territoires, mais bien au contraire, qu'elle puisse échanger avec les entrepreneurs locaux, les acteurs locaux, pour dynamiser leur territoire en retour, créer de nouvelles activités et s'y impliquer.
Vous comprenez la colère de certains lycéens contre la réforme du bac et contre la plateforme d'orientation Parcoursup, vous qui êtes le nez là-dedans, si j'ose dire ?
En fait, c'est un vrai sujet. Ça montre surtout que nous, étudiants et diplômés, on a un vrai travail à faire, on a toute notre part à faire pour agir en faveur de l'accompagnement des lycéens. Et ça peut être tout simple, ça peut être en retournant dans nos lycées, en témoignant tout simplement de nos parcours scolaires, qu'on va pouvoir aujourd'hui lutter contre cette autocensure et accompagner les lycéens dans leur choix d'études supérieures.
Votre initiative, elle est reprise dans d'autres régions, hein. C'est pas que dans le Pays Basque, ça a déjà égrené.
Absolument, et on a été en fait contactés par des étudiants des quatre coins de la France, qui nous ont dit à quel point ce que nous faisions au Pays Basque résonnait chez eux également. Et donc aujourd'hui, il y a une quinzaine d'associations qui se répliquent sur notre modèle, voilà, dans le Tarn, dans l'Yonne, dans le Béarn, et qui font que nous, étudiants, nous, jeunes diplômés de ces filières-là, eh bien, nous nous engageons. Et dans les efforts qu'il y a à accomplir aujourd'hui pour nos campagnes, dans ce contexte un peu compliqué que nous connaissons, eh bien, nous avons toute notre part à faire et c'est un appel à l'engagement que nous lançons à votre antenne aujourd'hui. Étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs des territoires, proviseurs, ensemble nous pouvons tout changer pour l'égalité des chances sur chacun de nos territoires.
Juste une question, c'est que certaines grandes écoles sont chères. Vous avez mis en place un système de bourse, comment ça se passe ? Est-ce que... il y a un dispositif qui est fait pour aider ceux qui n'ont pas les ressources.
Tout à fait. En fait, très concrètement, en 2018, l'association a lancé un dispositif de bourse qui est inédit à l'échelle d'un territoire, qui va s'appuyer en fait sur les proviseurs et dont le financement va dépendre exclusivement des entrepreneurs locaux qui viennent de Paris, qui viennent de Londres, qui viennent du Pays Basque tout simplement. Et aujourd'hui, concrètement, ça représente 250 000 euros de dons qui vont permettre d'attribuer des bourses de 6 000 euros à des étudiants, en tout cas des lycéens, qui vont décider de se lancer dans les études supérieures.
Ah oui, c'est important quand même, 6 000 euros, c'est énorme.
Vous auriez pu faire des grandes études, si ça avait existé à votre époque.
Moi, je suis restée en province, vous voyez.
Mais oui.
Avant de monter à la capitale.
Mais oui, mais vous avez quand même réussi, Eva, comme quoi. Merci beaucoup, Vicente Cesareta, Florian Garde, d'avoir été avec nous, invité en direct ce matin sur Europe 1, en studio.
Merci beaucoup.
Europe 1, il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent sur Europe 1, avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient, et j'ai checké avec Laurent Cabrol, on peut parler de redoux.
Bon.
J'ai pris ça pour un oui.
Il est 6h26, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Avec Céline, le retour des éclaircies.
Oui, un temps qui s'améliore. On a encore des averses ce matin sur l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Alpes du Nord. Temps toujours agité pour la Corse avec des orages possibles. De la neige sur les reliefs de l'Est et le Massif central. Quelques gouttes encore pour le Sud-Ouest. Partout ailleurs, le soleil fera son retour après dissipation de quelques nuages bas ce matin. Les températures sont plus douces, hein, vous avez raison.
de parler de Redoux, et ça déjà depuis hier. Avec ce matin 2 degrés, c'est la plus basse pour Mulhouse. Il en fait 5 à Lyon, à Lille, 7 à Paris, 8 à Bordeaux, 10 degrés à Montpellier, 11 à Biarritz et 12 à Bastia.
Et cet après-midi ?
Eh bien, 5 à 7 degrés dans le nord-est, 9 à 13 pour le reste de la moitié nord. Il en fera 10 à Paris, 11 à 14 pour la moitié sud. Et puis côté ciel, l'amélioration se poursuit avec de plus en plus de soleil sur l'ouest et la moitié nord. Ça restera un petit peu plus nuageux sur le nord-est. Et puis en descendant vers le massif central, encore quelques gouttes possibles près des côtes atlantiques. Grand soleil près de la Méditerranée avec du vent, un mistral et tramontane qui vont bien souffler toute la journée. Du vent, on en aura également sur la Corse avec du mieux quand même côté ciel. Encore quelques averses sur le sud de la Corse. Grand soleil près de la Méditerranée, je l'ai déjà dit, et vent également sur la Bretagne. Un petit mot peut-être pour...
Très volontiers, Céline.
Le reste de la semaine. Enfin, demain mardi, le temps va être à nouveau agité par la Bretagne, puisqu'il y a une nouvelle perturbation qui va arriver sur le nord-ouest. Ailleurs, un petit peu plus de nuages forcément, puisque la perturbation va avancer. Ça sera bien nuageux dans le nord-est. Encore beaucoup de vent près de la Méditerranée. Mercredi, temps plutôt mitigé, mais c'est la pluie qui va traverser la France de mardi à mercredi, d'ouest en est, avec beaucoup de vent. Et puis, pour le reste de la semaine, c'est les perturbations qui s'enchaînent, avec entre les deux toujours quelques éclaircies.
Merci beaucoup Céline pour cette météo très précise. Restez avec nous dans une minute, le journal de David Doucan sur Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec d'ici 7h, juste avant de retrouver la matinale de Nikos Aliagas. Politique, économie, médias, prenez l'actu de vitesse avec les fines analyses des trois fantastiques. Au programme ce matin notamment, Macron, le retour phase 2. Après les mesures économiques, le président s'attaque désormais au dialogue démocratique. Ce sera juste après le journal de David Doucan. Ce journaliste dont une étude du CNRS prouve qu'écouter sa voix 3 minutes par jour permettrait aux auditrices de connaître non pas un, mais deux pics d'ovulation par mois.
Après reportage tube, signé Lionel Gougelot.
Après son tube Lionel Gougelot, le Barry White Blanc revient avec son nouveau titre François Coulon. Et pour vous mesdames, au risque de se vriller une corde vocale, il repousse encore les limites de son organe.
Reportage à Lorient signé François Coulon.
Il est là.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. h 7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Il faut libérer les ronds-points. La phrase est signée Christophe Castaner. Le message du gouvernement aux Gilets jaunes. La sécurité sur l'espace public doit être restaurée. Sécurité, mais aussi liberté de commercer. L'impact économique du mouvement donne le tournis. Chiffre d'affaires en berne et une consommation qui peine à repartir. Et puis elles sont championnes d'Europe. Les handballeuses françaises ont battu la Russie hier en finale. Le chaudron de Bercy a explosé de joie hier vers 19h.
Europe 1.
Ils étaient deux fois moins nombreux samedi par rapport au week-end précédent. Le mouvement des Gilets jaunes mobilise moins, sans doute l'effet conjugué des annonces du gouvernement et du contexte terroriste après l'attaque de Strasbourg. Alors le pouvoir change de ton. Entraver la libre circulation des biens et des personnes est illégal. Les plus radicaux qui persistent à occuper des ronds-points vont devoir partir par la force, s'il le faut. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Libérer les ronds-points pour laisser place au dialogue, voilà l'appel relayé par plusieurs ministres depuis samedi. Le ton a changé, comme si la mobilisation des Gilets jaunes, plus faible ce week-end, avait redonné un peu d'optimisme au gouvernement. Les ronds-points, les barrages continueront à être débloqués au cas par cas, indique-t-on place Beauvau, où l'on refuse de parler d'accélération du calendrier. Il faut maintenant passer à autre chose, martèle-t-on dans les ministères, à savoir le grand débat national qui doit permettre de faire participer chaque citoyen. Sauf que question d'organisation, la présentation de la consultation a pris un peu de retard, sans doute rattrapée cette semaine. Mais là-dessus, comme sur la concrétisation des annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat, il ne faudra pas se planter, avertit un cadre de la majorité. Si au 15 janvier, les Français ne voient rien venir, dit-il, il y a un risque que le mouvement des Gilets jaunes repart.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Les annonces d'Emmanuel Macron sont détaillées ce matin par le Premier ministre dans le journal Les Échos. Édouard Philippe précise que le gain de 100 euros net pour les salariés proches du SMIC passera par une hausse de la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février prochain. Ce geste ne concernera donc pas tous les salariés au SMIC, puisque la prime d'activité tient compte de l'ensemble des revenus du ménage. Mais le chef du gouvernement explique que le nombre de foyers éligibles sera élargi pour passer de 3,8 à 5 millions. Conséquence directe de cet effort en faveur du pouvoir d'achat, Édouard Philippe, dans cette même interview, annonce que le déficit public se creusera en 2019 pour atteindre
3,2% du produit intérieur brut. Nous vous en avons souvent parlé, l'impact sur le commerce est catastrophique. La Banque de France estime que les gilets jaunes sont responsables d'une division par deux de la croissance au quatrième trimestre 2018. Et les consommateurs sont déboussolés, ils n'ont pas pu s'acquitter normalement de leur course de Noël. Reportage dans un magasin de jouets parisien signé Romain Oquet.
Cela fait à peine 3 jours que Rose a pu se consacrer à ses achats de Noël. Et elle n'a pas le temps de flâner ni de comparer les prix, retardés par les fermetures de boutiques pendant les manifestations.
J'ai chamboulé l'emploi du temps dans le sens où j'avais prévu d'acheter des jouets avec ma fille. Donc comme elle est au collège, elle n'a pas pu m'accompagner, mais bon voilà, on n'a pas le choix.
Heureusement, Rose a trouvé la poupée qu'il lui fallait, car dans le magasin, les rayons sont pleins. Une particularité pour la période, explique Arnaud Gall, le directeur. Exemple avec ce jeu de société, succès de Noël.
On a très peu de ruptures sur ce produit. On en a encore une centaine de pièces, je crois, de mémoire. Effectivement, on a à l'heure actuelle beaucoup plus de disponibilité de produits phares par rapport à l'année dernière à la même époque.
Des clients plus nombreux à retarder leurs achats, comme Noémie. Entre la crise des gilets jaunes et l'attentat de Strasbourg, le cœur n'y est pas.
Il y a comme une forme de, je sais pas, de fatigue, de relâchement, de lassitude de tous les événements qui font que l'esprit de Noël est un peu moins présent. Bon, les enfants nous le rappellent puisqu'ils ne parlent que de ça. Mais nous, les adultes, on est un peu échaudés, quoi.
Dernière semaine avant Noël, pourtant cruciale pour ce magasin qui réalise un tiers de son chiffre d'affaires de décembre.
En fait, ce sont tous les saisonniers de cette période de Noël qui sont pris au piège. Par exemple, les ostréiculteurs. Savez-vous que les ventes des huîtres, c'est 75% du chiffre d'affaires au moment des fêtes de fin d'année? C'est donc la catastrophe pour ce secteur qui représente 4500 entreprises en France. Reportage dans le Morbihan, signé François Coulon.
En 4 semaines à la pire des périodes, les gilets jaunes nous font boire la tasse, peste un ostréiculteur breton survolté. Les ventes d'huîtres ont chuté de -20 à -50% selon les régions. Philippe Le Gall, président des conchyliculteurs français.
Personne n'ose acheter et c'est d'autant plus dramatique qu'on vend nos huîtres qu'à Noël. 75% de notre production part pendant la semaine qui vient et là, si on perd Noël, nous c'est dramatique. Il y a des chaînes de distribution qui aujourd'hui ont arrêté leurs achats, carrément. Parce que tout simplement, ils ne vendent pas. C'est tout à fait l'impact des blocages sur le terrain. Pour nous, c'est terrible. Ça remet en cause nos structures d'entreprise.
L'Armor Baden, joyau ostréicole, accuse le coup lourdement. Nicolas Crenegui, 12 salariés et 3 saisonniers.
Là où cette semaine, on devrait charger un camion de 10 à 15 tonnes par jour, on n'a eu que 2 livraisons à effectuer. On est à 20% en deçà des résultats habituels. On peut estimer aujourd'hui à plusieurs milliers de tonnes la quantité d'huîtres n'ayant pas été écoulée pendant cette période-là.
Il n'y a qu'un seul 25 décembre par an, les ostréiculteurs implorent une trêve de Noël. L'Armor Baden, François Coulon, Europe.
Europe 1, il est 6h35.
Le bilan de l'attentat de Strasbourg s'est encore aggravé. Une 5e victime est décédée hier à l'hôpital. Shérif Shekat aura donc assassiné 5 personnes. 11 autres sont blessées, dont certaines sont toujours dans un état grave. Le dossier d'Alexandre Benalla s'alourdit. L'ex-collaborateur de l'Élysée a de nouveau été mis en examen pour des violences en marge du défilé parisien du 1er mai, cette fois au Jardin des Plantes, peu avant l'affaire de la contrescarpe.
À suivre dans ce journal, Theresa May se débat sur tous les fronts à Bruxelles, mais aussi à Londres, où elle fait face à un adversaire de poids, l'ancien Premier ministre Tony Blair. A tout de suite.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Alors que Theresa May est rentrée presque bredouille de Bruxelles, à Londres, l'idée d'un nouveau référendum prend de plus en plus de place.
Oui, et elle est portée par un héros de poids, l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui a à nouveau plaidé en faveur d'un nouveau vote. Et cela a entraîné la fureur de Theresa May. Correspondance à Londres, signée Anaïs Cordoba.
La riposte de Downing Street à Tony Blair est à la mesure de l'inquiétude que suscite désormais le risque d'un second référendum. C'est une insulte envers le poste qu'il a occupé et le peuple qu'il a servi, a fustigé Theresa May. Alors qu'il y a encore quelques mois, l'ancien Premier ministre prêchait dans le désert, vendredi, c'est face à une nuée de caméras qu'il plaidait pour un second référendum.
Nous savons qu'il n'y a pas eu de récession après le Brexit. Ça, nous devons le reconnaître aux Brexiteurs. Mais notre monnaie a été sévèrement dévaluée, la croissance et l'investissement durement touchés. Plus personne ne pourra promettre 350 millions pour notre santé. Les arguments et contre-arguments seront soutenus par des faits.
Et au milieu du plaidoyer, cet appel aux Européens.
L'Europe va devoir décider si elle veut saisir cette opportunité historique et faire une offre nouvelle aux Britanniques. Une offre qui pourrait répondre aux inquiétudes de nombreux Européens. sur l'immigration et la libre circulation, par exemple. Cela montrerait que les dirigeants ont entendu les inquiétudes de ceux qui ont voté Brexit.
Accusé par Theresa May de saper les négociations, Tony Blair a répondu hier sur Twitter qu'il agissait dans l'intérêt national. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Alors je vous le disais en titre, les Françaises sont devenues hier championnes d'Europe de handball. Seulement un an après leur titre mondial, elles ont battu dans un Bercy surchauffé la Russie 24-21. Cette victoire leur vaut en outre un ticket direct pour les Jeux Olympiques de 2020.
Et puis aujourd'hui, c'est le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Oui, et ça va se passer à Nyon, en Suisse.
Ah, je connais très bien.
Que vous connaissez bien, la Suisse. Ça ne vous a pas empêché de savonner, cependant, sur ce lancement.
C'est vrai.
Je le note. Le Paris Saint-Germain devrait tirer un adversaire prenable. En revanche, pour Lyon,
c'est bien formulé, ça.
Cela s'annonce plus compliqué. Les explications de Julien Froment.
En terminant, premier de son groupe, le Paris Saint-Germain devrait bénéficier en théorie d'un tirage au sort plus abordable. On pense aux Allemands de Schalke 04 ou aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam, deux équipes largement à la portée des hommes de Thomas Tuchel. En revanche, si le sort décidait de s'acharner sur Paris, eh bien, ce pourrait être Manchester United, Tottenham ou encore l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, vainqueur l'an passé de la Ligue Europa. Paris aura toutefois l'avantage de disputer le match retour à domicile au Parc des Princes. Ce qui ne sera pas le cas de Lyon, deuxième de sa poule, et dans une position plus inconfortable. C'est bien simple, tout le gratin européen rêve d'affronter l'équipe de Jean-Michel Aulas. Le Barça de Messi, la Juve de Ronaldo, le Real de Benzema, ex-joueur de Lyon. Seul espoir donc pour l'OL, tomber sur le FC Porto. Verdict ce midi à Lyon.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David, un dernier mot rapide pour aider nos auditrices qui chercheraient procréer.
François Coulon.
Son nom est Cor. Doucan. On passe à la météo pour s'en mettre dans nos émotions. Quel temps pour ce 17 décembre, Céline? C'est plutôt pas mal, mais temps encore agité à l'est.
Oui, des averses.
Vous en faites des caisses, Mathieu. Ce lancement
c'est
météo,
mon métier.
Vraiment.
Bah oui, mais j'essaie de faire vivre la météo comme vous faites vivre le Brexit.
Franchement,
j'y mets la même application et le même entrain que vous, David.
C'est vrai que c'est encore un petit peu agité à l'est avec des averses entre l'Alsace, la Lorraine jusqu'aux Alpes du Nord, de la neige sur les reliefs. On aura aussi quelques gouttes sur le sud-ouest. Neige aussi pour le massif central. Et puis le ciel... sera encore bien agité sur la Corse avec des orages possibles et du vent qui va bien souffler près de la Méditerranée, ça toute la journée. Le ciel il sera donc bien dégagé ce matin comme cet après-midi. Pour les autres, le soleil sera déjà présent ce matin, parfois après dissipation de quelques nuages bas. Il sera de plus en plus généreux cet après-midi. Les pluies vont se calmer dans l'est, mais on aura encore quelques gouttes comme sur les côtes atlantiques et le sud de la Corse. Quant aux températures, elles sont très douces. 9 à 13 degrés sur la moitié nord pour cet après-midi, 11 à 14 pour la moitié sud.
Merci Céline. Eva Rock.
Alors dans la presse ce matin, il est beaucoup question des jouets à la mode pour ce Noël 2018. Depuis 5 heures, on vous a demandé quel jouet a marqué votre enfance. Eh bien, c'est Chrétia qui nous dit « Je détestais les poupées et les Barbies anorexiques. En revanche, j'adorais jouer en cachette avec les voitures de mes frères. » Caranoïa qui nous dit « Les Legos, les Barbies auxquelles je confectionnais des vêtements, le kiki de tous les kikis et les figurines des schtroumpfs. » Et puis Marc nous a dit « Mako Moulage » ou « Vanille, encore la voiture de Barbie avec laquelle j'ai tellement joué qu'elle a des kilomètres au compteur, la fameuse voiture en question. » Et puis Vincent, les Legos évidemment. Mais il préférait les vélocross, BMX et autres tout-terrain.
Excusez-moi, mais ouais. Elle a des kilomètres au compteur et le kiki de tous les kikis, ça fait beaucoup d'expressions que je vais pouvoir réutiliser et détourner de leur sens
premier.
Oui, mais
je suis honnête, vous voyez, je lis vraiment les messages des auditeurs.
J'admire votre honnêteté. Merci à tous les auditeurs.
Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre. Politique, économie, médias, place aux trois fantastiques et leur décryptage savant de l'actu. Des analyses pointues comme vous n'en entendrez jamais au PMU du coin.
Eh bien écoutez, le nouveau patron, là, le Canadien, il n'a rien compris de ce que c'était que June, donc il veut arrêter June.
Au programme, sinon ce matin, bravo EDF, un EPR qui fonctionne enfin, ça existe, oui, mais en Chine. Et puis, moins de fluo dans les rues ce week-end, pour autant la colère ne retombe pas, et selon notre éditorialiste Mickaël Darmon, c'est même maintenant que tout commence pour Emmanuel Macron.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le Premier ministre détaille les annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Dans une interview exclusive aux Échos, Édouard Philippe précise que les 100 euros de plus passeront par la prime d'activité et seront perçus dès le 5 février prochain. Une cinquième victime de Chérif Chekat est décédée hier à l'hôpital. Le bilan de l'attentat de Strasbourg s'élève donc désormais à 5 morts. On déplore toujours 11 blessés, dont certains sont dans un état grave. Enfin, elles sont championnes d'Europe. Les handballeuses françaises auront donc tout gagné, le titre mondial l'année dernière, l'Euro cette année. Elles ont battu hier en finale la Russie 24-21.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
6h44 et attendez, suite à nos déboires de la semaine dernière, je vais compter. 1, 2, et oui, 3 fantastiques. Mickaël Darmon a résolu son petit problème de panne de réveil en installant sur mes conseils la sonnerie qui fait qu'il est impossible de ne pas se réveiller parce qu'elle est tellement agaçante que même à 42 fièvres, on se lève pour l'arrêter.
C'est horrible.
C'est vrai.
Mickaël Darmon, puisque vous êtes réveillé et bien réveillé, on va commencer justement par vous. Ce week-end, on a vu qu'il y avait moins de fluo hein, dans les rues. Pour autant, la colère ne retombe pas. Et en fait, c'est maintenant que tout commence.
Et oui, c'est parti pour une course contre la montre sur plusieurs fronts. Faire en sorte d'abord que les mesures annoncées soient effectives. La haute administration a fait de la résistance. Le gouvernement lui a tordu le bras. Les fameux 100 euros de la prime d'activité seront versés en février et non pas en avril ou en juin. Malgré la décrue donc en nombre de manifestants, effectivement, la colère est toujours là. Et pour Emmanuel Macron, eh bien, l'enjeu est triple. Le pouvoir d'achat, la justice fiscale et le fonctionnement de la démocratie. Le chef de l'État décide donc de s'appuyer sur les maires des petites villes, en prise directe avec la vie des Français. Il les rencontrera lors de son tour de France. L'objectif est aussi d'élargir son assise et de sortir enfin du face-à-face imposé par l'Association des maires de France, dirigée par François Baroin.
Et comment créer le dialogue avec les Gilets jaunes invités à participer au grand débat national?
Alors, ça ne sera pas facile, hein, ce dialogue, parce que d'abord, il faut savoir que les Gilets jaunes font la promotion du RICARD, le référendum initiative citoyenne apolitique républicain démocratique. Ce n'est pas une blague. C'est devenu le RIC sur le terrain pour ne pas prêter à confusion. C'est un outil donc, de contre-pouvoir du peuple. Et on retrouve là d'ailleurs l'influence des extrêmes qui en partie ont infiltré ce mouvement. Alors utiliser le référendum, pourquoi pas, mais pas sur n'importe quel sujet, répond Édouard Philippe ce matin dans Les Échos. Les plus radicaux des Gilets jaunes se placent également sous la bannière du blogueur Étienne Chouard, le célèbre partisan du non au référendum, référendum de 2005. Ils veulent faire valider un texte aux accents révolutionnaires contre l'État et contre le principe de l'impôt. Alors, comment reprendre tout simplement le quinquennat, se demande Emmanuel Macron. Le nouvel élan passe par le monde d'avant, les élus locaux, les syndicats, les présidents de région. Bref, selon un élu, Emmanuel Macron va devoir se résoudre à une cohabitation, mais sans dissolution.
Et quand vous parliez du RICARD, c'était une blague de votre part avec votre esprit facétieux ou ça s'appelle vraiment le RICARD?
C'est le premier texte, mais après, effectivement, pour pas prêter à confusion, c'est devenu le RIC quand les gens plus sérieux sont arrivés, mais je dirais que c'était une belle trouvaille.
Je ne sais pas si c'était le RIC ou le RIC, en fait. Je me demandais comment on disait.
Oui, enfin, on s'en bien
répondu. Oui, mais enfin, oui, c'est plus facile.
On va dire que c'est laissé à l'appréciation.
Voilà, merci.
De la politique, les amis, nous passons à l'économie. Avec vous, Axel de Tarlet, l'EPR, le réacteur nucléaire français de troisième génération, fonctionne enfin en Chine.
Voilà. Il ne fonctionne toujours pas en Europe. Vous savez qu'en Finlande, on leur avait promis une électricité à partir de 2009. Ils attendent toujours, les Finlandais. Hein.
Ah oui.
Et à Flamanville, nous, dans la Manche, ils devaient commencer à produire des électrons en 2012. On attend toujours. Eh ben, en Chine, ils sont partis après et ça y est, ils sont arrivés. L'EPR, donc c'est une technologie française. Ce sont ces nouveaux réacteurs avec une haute sécurité. Eh bien, ça y est, il a été raccordé au réseau et il a produit, il est mis en service sur le plan commercial. Donc, c'est une bonne nouvelle pour EDF parce que ça veut dire qu'au moins sur le plan technologique, ça marche, cette technologie, ce réacteur.
Ça marche en même temps, il n'est pas mis en marche depuis longtemps. Il faudra voir sur le long terme s'il marche.
Enfin, ça y est, il produit des électrons. Voilà, alléluia. Reste un problème, c'est le coût. Parce que EDF.
Il est très élevé.
Eh bien oui, EDF avait dit au début que l'EPR coûtera 3 milliards. Finalement, on est plus à autour de 10 milliards d'euros. Donc,
ah
le
oui,
problème, c'est que.
Plus cher.
Voilà. Ouais. Et donc, sur le plan commercial, ça handicape l'avenir de ce réacteur, de cette technologie française. Alors, EDF explique oui, mais c'est parce que c'est une tête de série. Et puis, vous savez, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fabriqué de nouveaux réacteurs qu'on avait un peu perdu la main. Mais avec l'expérience.
C'est rassurant.
C'est aussi parce qu'ils disent on fait les choses dans les règles de l'art, voilà. Avec l'expérience, on arrivera à diminuer les coûts. Donc c'est pour ça qu'EDF a bon espoir. Notamment, ils essayent en Inde là de vendre 6 nouveaux EPR.
Et voilà. En France, alors où en est-on en France? Quand Flamanville va entrer en service?
Alors donc vous savez qu'en France, on a eu des problèmes de soudure. Hein. Il faut refaire des soudures qui n'étaient pas tout à fait aux normes.
Justement, j'ai un peu de temps libre pendant les vacances.
Voilà, il y a pas mal de bricoleur. La Manche. Donc il doit entrer en fonctionnement en 2020 théoriquement. Et ensuite, si jamais les coûts baissent et que tout fonctionne bien. Vous savez qu'Emmanuel Macron a dit lors de la PPE, là, il y a 15 jours, qu'en 2021, on verrait si on construira en France de nouveaux EPR, d'autres EPR. Il faudra que le coût soit plus bas. Et puis, il faudra aussi que la population... Il y a le problème de l'acceptabilité sociale. Oui, mais alors Eva, vous savez que quand on pose la question à EDF, ils disent « ça dépend de la façon dont on pose la question ». Si vous dites aux gens « est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire ?», les gens répondent « non ». Mais si, alors EDF m'a sorti la question, si vous posez aux gens la question « que pensez-vous du recours au nucléaire pour produire de l'électricité ?», eh bien là, les réponses sont bien plus mitigées. Elles sont 25% en faveur, 20% contre. Et puis, il y a de nombreuses personnes qui disent ne pas avoir d'avis. Vous voyez, c'est subtil. Il y a quand même un enjeu climatique, parce que je vous rappelle que le nucléaire ne produit pas de CO2. Et puis surtout, il y a un enjeu financier pour EDF qui a investi des dizaines de milliards d'euros dans cette technologie. Si elle fait un flop, ce sera embêtant pour l'avenir d'EDF.
Merci beaucoup Axel de Tarlé. Eva Roch, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir pour
se détendre ?
Eh bien
écoutez, dans la famille des magazines d'évasion, j'ai un faible pour ceux présentés par Philippe Googler et notamment Faut pas rêver, qui est diffusé sur France 3 à 21h. Et ce soir, il nous emmène le long du Mekong, la mer de tous les fleuves. C'est comme ça qu'on surnomme le fleuve en question, pour une traversée avec des étapes au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Sujet étonnant avec des pêcheurs de l'extrême notamment, sujet amusant aussi au détour d'une rue de Laos.
Ça c'est quand même dingue. On est à plus de 11 000 km de Marseille. Et qu'est-ce que font les gens ici? Ils jouent à la pétanque. Et alors, est-ce que c'est des boules aux normes françaises?
Les mains françaises sont plus grandes, donc la boule est plus grosse. Les mains laotiennes sont plus petites, alors il nous faut des boules de petite taille.
C'est le même poids, mais ajusté à vos mains.
Les petites boules ont une tenue parfaite. On les tient bien en main. On joue souvent. Dès qu'on a fini le travail, on vient jouer. Mais on ne peut pas trop jouer non plus. Sinon, nos femmes nous rondent.
C'était donc un extrait de OSS 117 à découvrir ce soir. Sur quelle chaîne?
Exactement, sur France 3.
Sur les boules de Noël.
C'était Faut pas rêver. Alors vous le verrez, la dernière partie du voyage, elle se déroule à Ho Chi Minh Ville, que les habitants appellent toujours Saïgon. C'est une ville en plein changement, dans laquelle les bâtiments ultra modernes remplacent les édifices d'antan. Et je vous recommande les séquences tournées à bord d'un scooter dans les rues où tentent de cohabiter 4 millions de deux roues. C'est absolument effrayant. Et puis il y a deux autres programmes à voir ce soir. Arte diffuse à partir de 20h55 Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone. Si vous n'avez pas vu ce grand film, allez-y. Et puis une grande fresque de presque 3 heures. Et puis pour les insomniaques, France 2 vous offre un cadeau, la saison 3 de Mister Robot, excellente série dans l'univers des hackers. Il faut quand même avoir suivi dès le premier épisode. Et puis surtout, il faut être prêt à regarder les 6 épisodes diffusés ce soir.
6 épisodes de suite.
À partir de 22h40, vous serez donc réveillé pour écouter De Beau les copains demain
matin.
Mais
ça rime à quoi de diffuser ça? Et pas vous qui êtes experte média.
Je sais pas. C'est
pourquoi on diffuse 6 épisodes d'un coup?
Parce que.
Et surtout d'une série comme Mister Robot, c'est une super série.
Du principe qu'on a télé-regardé ça sur les plateformes et qu'ils sont une sorte de deuxième diffusion.
À ce moment-là, on arrête de faire de la télé.
On est bien d'accord.
S'il n'y a plus de rendez-vous.
Moi, je vais regarder, comme ça, je serai réveillé.
Très bien, comme ça, au moins, on est sûr que Mickaël sera là.
Sinon, il ne faut pas rêver à 21h sur France 3.
Évidemment. Merci beaucoup Eva Roch. Les trois fantastiques seront de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Et Mickaël, justement, une excuse toute pourrie pour justifier votre impardonnable absence de jeudi dernier.
Je rêvais de travailler avec vous et puis je ne suis pas réveillé.
Sacré culot.
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin, l'heure de passer la main au patron, au boss, à celui que les plus flagorneurs de cette rédaction, comme Axel de Tarlé, appellent carrément
le leader Maximo.
Oui, la matinale de Nikos Aliagas arrive, précédée de son traditionnel débrief, mais étrangement, plus je me moque de Nikos, plus il semble m'apprécier, au point que je me demande parfois s'il serait pas un peu maso.
Allez, un petit coup de fouet.
Ah, c'est bien ce qui me semblait. Allez, mais vraiment pour faire plaisir alors.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Quand Debout les copains se termine et que Nikos Aliagas entre en scène pour la matinale d'Europe 1, c'est un peu comme lorsque le groupe de folk indépendant et plus ou moins inconnu qui assure la première partie des Rolling Stones se casse enfin. Parce que c'était sympa, mais bon, on a payé pour voir les Stones, pas trois guignols avec des guitares sèches. Et la star, Mick Jagger, entre enfin en scène.
C'est bon ça.
Le public sait qu'il va enfin en avoir pour son argent et il peut légitimement se dire que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos.
Hello camarade, comment
je
ça va?
Moi ça va parfaitement et je ne vous demande pas comment vous allez car je sais que lorsque Noël approche, vous êtes excité comme une puce. Puisque c'est le moment de l'année où, comme tous les êtres au cœur pur qui ont su garder leur âme d'enfant, vous vous demandez...
Vais-je avoir une prime exceptionnelle
à la fin de l'année.
Mais non. Vous vous demandez, quel cadeau le Père Noël va-t-il m'apporter dans mes petits chaussons au pied du sapin? Chaussons ou berloutis, ça marche aussi. Oui, vendredi bah durant
ouais,
le...
Avec ça, c'est vous qui roulez en Porsche.
Mais je vous en prie, dans mes rêves. Vendredi, durant le palpitant sujet de notre reporter Carole Ferry, parti enquêter dans l'atelier où sont fabriquées les boules de Noël, j'ai senti que vous étiez particulièrement réceptif à cette magie de Noël qui nous saisit tous à quelques jours du réveillon. J'ai perçu en vous, non pas le Nikos en costume trois pièces qui règne sur l'audiovisuel français, mais le petit Nico Sounet. Cet enfant jovial et potelé qui la veille du réveillon se glissait subrepticement dans la cuisine de Maman Aliagas pour choper de la bûche avant l'arrivée des invités.
Ah, c'est vrai.
Maman Aliagas, personnage en couleur à qui nous consacrerons un jour une chronique, qui n'avait d'autre choix que de lever la voix contre l'insolence de son Nico Sounet.
Je te demande pas, je te somme ! Tu me sommes à moi ! Tu me sommes, attendez !
C'est comme ça que j'imagine. Les années ont passé, Nico Sounet est devenu grand, enfin un peu plus, mais la passion de Noël est restée. Comme on a pu le constater donc vendredi durant la chronique de Carole Ferry, il était fasciné.
Je suis dans un petit village du Tarn, c'est ici que sont fabriquées les boules de Noël qui illuminent les Champs-Élysées.
Ah.
Toutes les finitions sont réalisées à la main par Xavier et Yvette.
Ah.
Mais comment ça ? Ah ! Mais c'est pourtant passionnant ! Je crois que vous ne vous rendez pas trop compte du travail que c'est.
Imaginez, il faut 4 heures rien que pour les vernir.
Ah ouais.
Non, vraiment, rien à faire. Le seul moment du reportage qui a semblé parler à Nikos, c'est lorsqu'il a été question de la fragilité des boules. On a senti qu'il y avait du vécu derrière cet intérêt soudain. Et de fait...
Même les attaches qui permettent d'accrocher les boules au sapin sont aussi incassables. Et croyez pas que ce soit anodin, c'est essentiel quand elles sont à portée de petites mains d'enfant.
Évidemment, eh oui. Les miens ont déjà cassé les miennes.
Avis à ses enfants et à tous les mioches qu'il croise sur The Voice Kids, Nico c'est gentil, mais il n'aime pas qu'on lui casse les boules. Gustave de Noël, à bon entendeur, joyeux Noël quand même les enfants.
Bravo, bravo, bravo Mathieu Noël. Alors ma mère n'a pas cet accent-là.
Non, je sais pas pourquoi.
Ma mère parle comme ça, elle adore Mathieu Noël le matin.
Magique, ça.
Elle ne m'appelle pas Nico, comment vous
Nico Sounet.
Non, elle m'appelle Nicolakis.
Nicolakis, c'est ça votre petit surnom.
Voilà.
Ah bah, je le saurai pour la prochaine fois.
Merci de nous réveiller dès 5h du matin avec Eva Roy.